Là, il y aurait sexualité pure, et donc c'est d'autres phénomènes sociaux, la loi a d'autres choses à dire pour ces autres manières de considérer la relation homme-femme, mais à partir de quel seuil cela peut être considéré comme mariage vraiment dans le sens de la loi biblique. Alors il en résulte que nous pouvons déjà établir une première ligne de démarcation, c'est que la loi biblique va considérer, étant donné le problème de l'existence, de cette séparation entre mâle et femelle, et par conséquent de tous les problèmes de la sexualité, ou du désir en général, du désir de la présence, qui est une des formes de la sexualité sans être la sexualité pure elle-même, eh bien, en deçà, ce n'est pas mariage, à partir d'un certain seuil, c'est considéré comme mariage. Bien entendu, l'arrière-fond de la discussion, c'est que, comme je l'avais dit la dernière fois, finalement, on considérera qu'il risque d'y avoir très peu de mariages authentiques, et c'est au sujet de ces mariages-là que la loi légifère. Voilà. Et en deçà, le plus grand nombre serait faux mariage. Voici un exemple de la discussion talmudique, je reviendrai ensuite au fond du sujet, qui montre pourquoi les rabbins ont tenu à délimiter très exactement ce seuil de démarcation. C'est par exemple le fait que s'attache à la notion de mariage la notion corollaire d'adultère. Par conséquent, si vraiment il y a eu mariage, il y a eu adultère. S'il n'y a pas eu un mariage, il n'y a pas eu adultère. Il y a eu autre chose, mais en tout cas pas adultère. Vous comprenez? Si vous rencontrez par exemple dans la Bible cette loi brutale, l'adultère est puni de mort. Alors je veux bien savoir qu'il s'agit d'un mariage qui serait un mariage, que par conséquent cela n'aurait aucun sens d'attribuer cette loi à un mariage qui n'est pas considéré comme tel. Est-ce que c'est bien clair? Et les rabbins se sont trouvés, au niveau de la discussion talmudique, devant un problème assez dramatique, parce qu'ils savaient par l'expérience de l'homme qu'ils avaient que très peu de mariages étaient mariages. L'école la plus exigeante, finalement, réclamait une qualité du désir d'un niveau tel que très peu de mariages auraient été sanctionnés comme tel. Mais au moins, cela aurait mis à l'abri, si vous voulez, des risques de la violation de la loi du mariage. Voilà donc un exemple qui nous montre la raison pour laquelle ces discussions ont en réalité une portée extrêmement grave. Voici en définitive, si vous voulez, sur quel point se noue cette discussion entre ces deux écoles. Et je vais, si vous voulez, d'emblée employer un langage symbolique pour essayer de vous suggérer ce que cela peut désigner, sans rentrer dans trop de détails. Et selon l'école de Hillel, il suffit d'attester le mariage par une pièce de monnaie de la plus petite valeur pour que le mariage soit authentifié. Et cela signifie, d'après l'école Prouta, ça voudrait dire un sou. On discute un sou de quel, comment dit-on ça en économie, de quel tyran de bronze, je dirais, de quel titre, pardon. Et la discussion elle-même a aussi une importance, mais voici ce que veut dire Hillel, dès que il y a effectivement phénomène social, ce qui est attesté par l'apparition du symbole économique que représente la monnaie, quelle qu'elle soit, hein, dès qu'il y a phénomène social au-delà du phénomène purement biologique, alors il y a mariage, et alors toutes les lois concernant le phénomène mariage prennent force de loi, notamment la loi de Hefetish, c'est-à-dire la loi de l'adultère, c'est-à-dire le risque d'avoir rompu cette relation d'exclusivité entre une personne et une autre personne qui ont entrepris en commun la construction d'un être humain qui serait le tout de l'homme, c'est-à-dire avec ses deux côtés. Donc le premier seuil. Et finalement, la loi est ainsi. C'est-à-dire qu'on considère que dès que la nature de ce désir est au niveau du sujet social et a dépassé le niveau du sujet purement biologique, eh bien, il y a déjà possibilité de mariage authentique. Nous avons vu d'ailleurs la dernière fois que c'est un point de départ, qui, s'il ne réussit pas à s'authentifier au niveau le plus haut, mène à ces deux catastrophes qui sont appelées soit le veuvage, soit le divorce. Je crois que nous avons déjà parlé de ça. Tandis que pour l'école de Shammai, il faut qu'il s'agisse d'un désir, d'une qualité déjà authentifiée selon l'ensemble des valeurs de la dignité humaine pour qu'on considère que ce soit un mariage. Par conséquent, tout mariage qui ne serait pas garanti par un désir de cette qualité, de cette nature, n'est pas considéré par l'école de Shammai, ne serait pas considéré par l'école de Shammai comme étant un mariage avec toutes les lois qui s'y rapportent. Alors apparemment, c'est l'école qui demande, qui est la plus exigeante du point de vue de la nature de ce désir, qui semble la plus exigeante tout court. En réalité, elle est la plus tolérante, parce qu'elle rejette, en dehors du cas mariage dont parle la Bible, la plus grande partie des mariages qu'elle considère comme étant autre chose, et par conséquent sur lesquels les lois n'auraient pas de portée. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'il y avait un procès mettant en question une contestation de l'intégrité ou au contraire de la rupture du lien de mariage entre la femme et son mari, entre le mari et sa femme, eh bien, le tribunal devait étudier, devait faire véritablement un procès à tous les niveaux pour savoir si véritablement il y a eu ou non situation de mariage authentique. Première remarque, c'est le fait que la possibilité du divorce était tellement pratiquée dans la société talmudique, ce qui est apparu par la suite comme choquant dans une société de mentalité chrétienne. En ce sens que, et je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur de croire que c'est le mari seul qui avait la prérogative de divorcer sa femme, enfin d'établir la motivation du divorce, et pas l'inverse. Hein. Les deux motivations sont équivalentes. Mais du point de vue de la procédure, étant donné que le mariage est une relation de la femme au mari, par conséquent le divorce devait être une initiative, je dis bien au niveau de la procédure, du mari vers la femme. Mais de toute façon, il y avait procès. Alors c'est une première remarque, c'est que chaque fois que le tribunal avait à prendre acte qu'il ne s'agissait pas de cette relation de mariage où vraiment les incidents ont la gravité qu'ils doivent avoir au niveau moral de la loi, eh bien ils en prenaient acte et... mettait hors la loi ce cas de mariage non réussi. Je veux dire que c'est à un certain niveau d'authenticité que la loi peut prendre force de loi par définition, et par conséquent, dès que nous posons le problème de la violation de la loi, il faut bien se rendre compte qu'il ne peut s'agir dans tous les cas que de conscience qui avait préalablement accepté l'a priori de la soumission à la loi. D'où le problème, si vous voulez, de la culpabilité. Je reviens sur un des principes que nous avons vus la dernière fois, c'est que celui qui s'engage pour mariage, cela est en vrai d'ailleurs dans les deux aspects de la relation, s'engage à l'avance à ce qu'il n'y ait pas violation de la loi du mariage. Je veux dire, il ne pouvait s'agir, selon la législation établie par les rabbins du Talmud, il ne pouvait s'agir que de la relation de deux consciences déjà libérées des risques de la faute, de telle sorte qu'il y ait vraiment mariage. C'est la raison pour laquelle la sanction de la violation peut nous apparaître à première vue comme aussi grave, parce que c'était à un niveau d'authenticité, et deuxièmement, la raison pour laquelle il fallait, pour chaque cas particulier, faire un procès littéralement, à tous les niveaux, de telle sorte de mettre en évidence s'il s'agissait de ce cas que prévoit la loi du point de vue de la sanction en cas de violation dans le mariage en question, s'il s'agissait vraiment d'un mariage ou pas. Voilà donc, si vous voulez, la première remarque. Je crois que c'est extrêmement important et que nous pouvons déjà discuter sur ce premier point. Jamais la loi n'a été appliquée qu'aux consciences déjà prévenues des risques de la violation de la loi. C'est-à-dire que l'homme de la société de la Torah est en principe un homme déjà libéré de tous les risques de la faute. Sinon, la loi ne peut pas prendre force de loi. Or, ce n'est pas le cas des situations de l'existence que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je tenais à mettre ça en évidence pour prévenir, si vous voulez, un certain nombre de faux problèmes qui consisteraient à discuter avec la loi telle qu'elle parle du niveau d'authenticité morale auquel elle légifère, et les situations concrètes de l'existence. Je vais simplement dire, si vous voulez, la conclusion d'un raisonnement possible, et ensuite nous engagerons déjà une première réflexion, c'est ceci. C'est que si une société devait décider de vivre réellement suivant la loi mosaïque du point de vue de la législation du mariage, eh bien, il faudrait qu'au préalable, il s'agisse d'une société d'hommes, non seulement, et de femmes bien entendu, non seulement connaissant la loi au niveau de la connaissance du code, mais ayant déjà expérimenté un certain niveau d'identité qui le mette a priori au-delà de la faute. Que peut-il y avoir comme conséquence s'il y a faute, c'est-à-dire violation des définitions de ce qu'est l'authenticité d'une relation de ce genre, dans notre cas le mariage? Eh bien, soit le tribunal prend acte de ce qu'il y a eu erreur, ce n'était quand même pas un vrai mariage, soit va se poser à nous le problème de savoir comment la Torah elle-même considère la question de la culpabilité. Mais je veux dire ceci. La situation de culpabilité pour celui qui, a priori, était libéré des risques de la faute, ne peut pas être la même que pour celui qui découvre la valeur morale par l'exercice de la faute. Je veux dire, très souvent, l'expérience de la culpabilité, c'est elle-même qui fait découvrir la valeur morale que l'on a violée. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas de la société biblique. Et c'est là que s'introduit cette clause, qui est très peu comprise des juristes lorsqu'ils étudient le Talmud, parce que cela renvoie à une certaine expérience, d'un certain niveau, cette clause que l'éventualité de la faute est radicalement impossible, interdite, grave, tragique, dramatique, avant l'acte. Mais une fois l'acte réalisé, eh bien, c'est pas grave. Le repentir peut expier et ramener l'intégrité. C'est très délicat ce que je vous dis là. Mais il faut comprendre que cela n'a de valeur que pour une conscience qui, a priori, est dans l'attitude de ne pas avoir à violer la loi. Des grands principes à Torah ne légifèrent, au niveau du Talmud aussi, que pour ceux qui, a priori, ont évacué les risques de la violation. Alors, avant l'acte de la violation, c'est très grave, parce que c'est une négation d'identité. Mais si l'acte a été réalisé, a posteriori, comme nous disons, ce n'est pas grave, parce qu'il s'agissait d'une conscience qui ne voulait pas violer, dans le fond de sa volonté, qui ne voulait pas violer la loi. Et vous voyez comment l'allure de ce problème change radicalement de ce qu'est l'analyse que nous aurions à faire dans une société de type contemporain, parce que la société de type contemporain est une société d'individus ou de personnes qui ne se sont pas libérés de ce que symboliquement la Bible appelle l'esclavage d'Égypte, qui est la condition préalable pour accepter de vivre selon la loi de Moïse, qui est la charte d'identité de l'homme libéré. D'accord ? Par conséquent, nous avons, si vous voulez, une légalité qui s'inspire d'une loi morale, mais qui en réalité va légiférer sur des êtres qui ne sont pas encore libérés à la moralité, enfin qui ne sont pas encore des êtres moraux. De là viennent, je crois, les risques de confusion qui peut y avoir à propos de ce problème. Alors, quelle est, si vous voulez, l'atmosphère de cette remarque, de ce que je suis en train d'essayer de vous dire? C'est que finalement, il faut en prendre son parti. Ça, c'est évidemment une vision assez pessimiste de la nature morale, de l'existence humaine, encore maintenant. Et je crois que c'est le résultat de cette dualité qu'il y a eu entre les idées, et donc les idéaux, et d'autre part, le niveau réel de l'existence. C'est un problème quand même assez moderne, parce qu'on se rend compte de l'échec de cette position dualiste, de réserver, si vous voulez, le niveau de la réflexion morale uniquement à la contemplation des valeurs, à l'abstraction, au monde des intentions, et puis d'abandonner le niveau des actes à un tout autre niveau, qui ne soit pas justiciable du jugement de moralité. C'est le résultat du christianisme, d'ailleurs. Or, la société d'éducation chrétienne a fait le bilan d'un échec de cette position. Et maintenant, elle tente de retrouver une position unifiante, où effectivement ce seraient les situations réelles de l'existence qui seraient évaluées au niveau de la moralité. Et elle trouve que ce n'est pas possible. Tout simplement, elle trouve que ce serait impossible, si vous voulez, scientifiquement, en donnant à ce terme de scientifiquement plutôt un sens phénoménologique, n'est-ce pas ? Impossible en fait. mais tout simplement parce qu'il s'agit d'êtres qui ne sont pas encore dans le cas d'être soumis à la loi et qui voudraient se juger et juger leur situation par rapport à cette loi qu'ils découvrent comme étant l'évidence du point de vue de la connaissance des valeurs. Voilà, je crois, le fond du problème. C'est qu'on ne peut comprendre le raisonnement de la jurisprudence talmudique que si on retient ce principe essentiel de toutes les discussions talmudiques, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà dans le cas d'être soumis à la loi, c'est-à-dire libérés des aliénations. Sans solution. Comment faire vivre des hommes qui ne sont pas des hommes suivant la loi de la dignité humaine absolue? Ou si vous voulez, pour employer une expression qui ne veut rien dire, comment faire vivre des bêtes comme des anges? Ce serait là le problème insolu. Alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut se rendre compte de ce que toujours la législation talmudique a, et c'est quand même pas péjoratif ce que je veux dire là, à penser à deux niveaux complètement différents. Ceux qui sont vraiment dans le cas d'être soumis à la loi, on les appelle les justes, si vous voulez, alors ils sont jugés par la loi. Et ceux qui ne sont pas encore dans le cas d'être soumis à la loi, ceux-là sont jugés non pas dans la perspective de la tolérance, mais à un niveau beaucoup plus inférieur de l'exigence morale. D'ailleurs, finalement, que chaque cas est un cas de jurisprudence, c'est-à-dire il faut faire un procès. De qui s'agit-il? S'agit-il de quelqu'un qui est dans le cas d'être soumis à la loi? Alors les choses sont... si vous voulez, trancher. C'est ce que prévoit la loi qui doit être appliquée. Parce que c'était le cas de quelqu'un qui, a priori, n'aurait pas fait de faute. S'agit-il de quelqu'un qui n'est pas encore dans le cas existentiel, si vous voulez, d'être soumis à la loi, alors il est, comment dire, dégagé de cette sorte de jugement, et il est jugé toutes circonstances connues, c'est-à-dire au niveau de la morale des mœurs, si vous voulez, de la jurisprudence purement sociale, et celle-là change avec chaque temps. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il faut inévitablement passer dans la casuistique, ça veut dire la science des cas différents que développe le Talmud, pour comprendre comment l'idéal moral de la loi biblique peut s'incarner dans la société humaine. Encore une fois, si vous voulez, le raisonnement ne peut pas être le même. S'il s'agit d'hommes soumis dans le principe à cette charte d'identité, alors ce que la loi dit à ce propos doit être considéré comme la vérité absolue, parce que c'est comme ça qu'est la vérité des mécanismes, si vous voulez, de l'identité humaine au niveau de l'authenticité que cette loi nomme l'Israël libéré de l'aliénation d'Égypte. Voilà. S'agit-il au contraire d'un homme qui est encore, si vous voulez, dans cette aliénation? Alors là, c'est une jurisprudence à un tout autre niveau qui doit intervenir. Nous avons cette grande règle. En général, pour tous les commandements de la loi, tous sont soumis à tel commandement, sauf, et puis il y a toute une énumération de cas. Toutes les catégories de personnes ou de personnalités qui, pour une raison quelconque, sont aliénées par rapport à cette identité de référence, à cette identité de modèle. Et c'est pourquoi il y a donc, selon la conception de la société juive, une hiérarchie des identités et par conséquent une hiérarchie de la manière dont le code mosaïque doit être appliqué, tant du point de vue de l'exigence que du point de vue de la sanction. Nous allons un peu en parler, si vous voulez, et je prendrai tout à l'heure un exemple bien précis d'une des lois concernant une des situations du mariage que nous essaierons de voir en détail. Si vous voulez, la première remarque sur laquelle nous pourrions réfléchir.
Vous voudriez qu'on amorce la discussion?
Oui, sur ce premier point, comme ça ensuite on peut. Voici, je vais rentrer un peu dans le. Oui. Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit l'enfant n'est pas soumis à la loi en tant que loi. L'enfant, c'est-à-dire, du point de vue de la notion que représente ce terme dans l'analyse juridique du Talmud, tout celui qui est encore en apprentissage de l'identité humaine, celui qui n'est pas bar mitzvah, ça veut dire dans le cas d'avoir à être jugé du point de vue du code. Tout celui dont l'identité n'a pas encore accédé à cette maturité humaine qui s'appelle Israël sorti d'Égypte et recevant la loi au pied du Sinaï. C'est cet être-là, ainsi défini, qui est soumis à la loi, disons dans toute sa rigueur, pour parler du problème de la sanction, l'autre, pas encore, il est patour. C'est-à-dire, ce qu'on va lui permettre de faire, c'est interdit, mais il a le droit de le faire, parce qu'il n'est pas encore dans le cas de... Il n'est pas, si vous voulez, majeur du point de vue de la loi. Bien. Alors, d'un point de vue, si vous voulez, limite, cet âge de la majorité pour toutes les lois, c'est l'âge de la puberté. C'est-à-dire que dans le principe, la Bible considère que celui qui est déjà capable de donner la vie, c'est pourquoi c'est le moment précis de la puberté, est déjà considéré comme majeur absolu. Mais nous savons très bien que, en réalité, il n'en est pas ainsi, puisque la majorité réelle a, comment dirais-je, beaucoup plus loin que l'âge de la majorité biologique, c'est-à-dire de la puberté. Tout se passe comme si nous vivons une existence qui est en décalage existentiel avec le niveau d'authenticité dont parle la loi. Alors, c'est la raison pour laquelle une loi de ce genre ne peut pas être pratiquée sans jurisprudence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'appliquer automatiquement, comme si tous les hommes étaient en égalité de dignité humaine par rapport à elle. Voilà, par exemple, un exemple de cas d'aliénation. Il fait partie de la catégorie qu'on appelle l'avbardera, c'est-à-dire incapable de la connaissance de la loi. Et qu'est-ce que ça veut dire, la connaissance de la loi? Ça veut dire, premièrement, connaissance de ce qu'il faut être pour s'identifier à cette loi, et connaissance de la sanction éventuelle du manquement à la règle. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui n'a pas été prévenu 3 fois de suite, ça veut dire à 3 occasions de suite, de ce qu'est la sanction prévue par la loi d'authenticité morale à l'acte qu'il risque de commettre, ne peut pas être accusé d'avoir violé la loi. Il faut qu'il y ait 3 fois à trace. 3 fois à trace, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 3 fois, que 3 fois il s'était prévenu que c'est une faute, quelle est la sanction de la faute? 3 fois de suite. Donc il y a donc une expérience, si vous voulez, de ce qu'est ce niveau de la moralité préalable à l'application de la loi en tant que légalité. Et il faut, d'autre part, que ceux qui témoignent du manquement à la loi soient ceux-là même qui l'avaient prévenu. C'est-à-dire que les témoins soient eux-mêmes ceux qui ont fait la hatra, je ne vois pas comment traduire cela, la mise en œuvre. Vous voyez donc qu'il y a toute une dimension de jurisprudence proprement dite qui tient la place du décalage qu'il y a entre l'état de la situation existentielle et puis d'autre part, la loi comme telle. Je préviens ici, si vous voulez, une objection possible. C'est, au fond, l'objection de saint Paul dans les évangiles et celle qui pourrait être reprise dans les temps contemporains, au fond, par les psychiatres, pas en particulier les psychanalystes, mais les psychiatres. C'est que la loi est traumatisante, c'est que la loi est culpabilisante, c'est, comme dit saint Paul en propre terme, c'est la loi qui fait le péché, hein, c'est-à-dire l'expérience du péché, c'est-à-dire ce malheur de la conscience, d'avoir violé la loi en sachant que c'est la vérité morale que l'on a violée. Eh bien, c'est une méconnaissance de la part de la littérature paulinienne. Je ne sais pas si c'est vraiment un certain Paul qui aurait été talmudiste qui a pu écrire une énormité pareille. C'est une inexpérience de la jurisprudence du Talmud. Hein. Et je vous répète, la règle, elle est très délicate à formuler, mais enfin, c'est la règle à laquelle se sont tenus toujours les rabbins. A priori, c'est très grave, parce qu'il s'agit d'une identité qui correspond à la manière dont la loi définit l'authenticité humaine. A posteriori, ce n'est pas grave, puisqu'il s'agissait précisément de quelqu'un qui était a priori soumis à la loi. Donc il y a, si vous voulez, une vision du rapport entre l'idéal moral et la situation de l'existence qui est, par définition, homogène à la nature même de la loi mosaïque. Avant d'être un code, c'est une charte d'identité. Voici comment doit être l'homme tel que Dieu aurait voulu le créer, s'il l'avait créé parfait, mais il l'a créé imparfait pour qu'il puisse se mériter. Enfin, ça c'est tout le problème de la signification de l'histoire. C'est une charte qui décrit. C'est ainsi que vous êtes, vous, que l'on nomme Israël. Voici comment, finalement, Moïse formule la loi. Alors, si je ne suis pas ainsi au niveau de l'existence, je ne suis pas dans le cas d'être soumis à la loi. Vous comprenez le problème. Si je suis ainsi au niveau de l'existence, il n'y a aucune gravité à la faute puisque ce n'est pas mon être de faire cet acte. C'est donc qu'il y a eu telle ou telle circonstance qu'on va étudier sous forme de procès avec la thérapeutique correspondante. Mais en tout cas, il n'y a pas culpabilité. Il n'y a pas culpabilité dans la relation avec l'ordre moral biblique, parce qu'il ne peut s'agir dans tous les cas, dans le fond du problème, que d'identité déjà libérée des causes de la faute. Qui? Si. Il y a, mais bien entendu.
La façon concrète de dire la question que je voulais vous poser, bien que cette attitude, cette façon de procéder, très concrète, qui finalement résulte de l'expérience morale elle-même, est toujours très régulièrement mal jugée du dehors, en général, par les gens qui ne vivent pas la morale comme le font les calvinistes, c'est d'une façon générale très mal considéré, et si on veut, les Jésuites pendant un certain temps avaient essayé de reprendre cela, il y a eu les provinciales de Pascal qui les a accusés de l'hypocrisie. Finalement, cette attitude d'esprit régulièrement soulève les opinions contre.
Écoutez, je veux dire, la position talmudique est très proche de la position des Jésuites dans ce problème. Du moins, c'est l'inverse, la position des Jésuites. C'est-à-dire, enfin, dans ce cas, notamment du conflit entre Pascal et les Jésuites, le génie était du côté de Pascal, mais la vérité était du côté des Jésuites. Sauf le fait qu'ils s'occupaient d'une loi qui n'était pas la vraie loi. Par conséquent, faire le raisonnement de la conscience morale par rapport à un code qui n'est pas le code, si vous voulez, de l'authenticité morale, ne peut qu'aboutir à des impasses et à des énormités. Finalement, il raisonnait sur un coutumier, et non pas sur ce que nous considérons comme étant la loi révélée, c'est-à-dire l'expression de la conscience morale réussie. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que, d'ailleurs le Talmud lui-même établit une catégorisation des pharisiens, c'est-à-dire des hommes soumis à la loi. C'est d'abord de se remettre en mémoire ce principe. La loi ne légifère pas pour la conscience qui n'est pas de bonne volonté. Elle n'élabore son code, sa casuistique, que pour la conscience qui est de bonne volonté. Par conséquent, a priori, si vous voulez, a priori, cette espèce de risque de l'hypocrisie est évacuée. La loi n'a force de loi, selon la société talmudique, que pour ceux qui, a priori de la conduite, ont déjà une existence de la bonne volonté réussie, c'est-à-dire de la moralité réussie. Par conséquent, s'il s'agit de ce type de conscience, la faute, c'est un échec de la conduite, ce n'est pas une culpabilité dans le sens païen du terme, vous comprenez? C'est-à-dire quelque chose d'irréversible, par conséquent de tragique, etc. Alors, ce qu'il faut effectivement caractériser, c'est que nous parlons finalement d'un idéal aristocratique. Et donc, que par conséquent, il y a tous les niveaux. Mais ce que je voudrais dire, il s'agit d'une morale religieuse. L'objectif de la perspective religieuse de la morale, c'est d'évacuer la tragédie de la conscience morale. Vous comprenez ce que je veux dire ? Évidemment, si la tragédie s'installe, alors nous sommes en pleine problématique grecque. Et c'est un peu ce que reprend la psychiatrie moderne, n'est-ce pas ? Lorsqu'elle voit dans la loi la cause principale de la culpabilisation ou de la traumatisation, comme on pourrait dire, mais cela n'est pas du tout possible en société mosaïque. Parce que, a priori, la panique de la culpabilité est évacuée, puisque n'est coupable que celui qui pourrait être soumis à la loi. Mais celui qui pourrait être soumis à la loi peut retrouver l'intégrité par la conduite du repentir, puisqu'il est un homme de conscience morale. Seul un homme de conscience morale peut retrouver son intégrité. Vous comprenez le problème ? Par conséquent, au fond, pour avancer un peu dans l'analyse, il y a une éducation préalable à l'accès à la loi. La morale est avant la loi et non pas après. Eh bien, c'est bien cela qui a eu lieu d'ailleurs dans l'histoire d'Israël. Cette loi n'a pas été donnée à n'importe quel peuple. Il y a eu d'abord tout un long temps d'éducation proprement dite, qui est le temps de l'histoire des familles des patriarches. Et lorsqu'un certain seuil de la moralité est atteint, alors seulement la loi est donnée, en tant qu'obligation, dans le sens philosophique du terme. Par conséquent, je crois que là, si, écoutez, j'essaye d'imaginer un talmudiste qui serait psychiatre, pas, eh bien, il serait beaucoup plus à l'aise que n'importe quel psychiatre pour déculpabiliser une conscience. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
Mais est-ce qu'il n'y a pas là une certaine prime?
Ben, c'est pourquoi je vous disais que, d'abord, ce que je vous dis là était très délicat.
Oui, bien entendu.
Et non, ce qu'il y a, c'est un autre ordre de risque, je pense. C'est la séparation de l'humanité en deux, les aristocrates de la morale et les autres. C'est ça le véritable risque. Or, c'est précisément la tentation qu'ont eu les Sadducéens de se séparer radicalement de tout ce qui n'est pas, si vous voulez, ce niveau de l'identité juive. Finalement, ils sont devenus en quelque sorte des racistes, si vous voulez. Considérer les autres comme étant purement et simplement des behemoths, enfin des bêtes. Quoi. Tandis que les pharisiens ont pris à charge leur peuple, leur société. C'est-à-dire qu'ils avaient cette position si difficile d'avoir à faire l'éducation morale en sachant que la loi n'avait pas force de loi pour leurs fidèles, tout en sachant que la loi avait force de loi pour eux. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire il n'y a pas de doute qu'il y a là, si vous voulez, un niveau d'aristocratisme moral qui ne peut être taxé d'hypocrisie que si on a affaire à de faux pharisiens, c'est-à-dire à des hommes qui n'ont pas véritablement, comment dire, l'éducation religieuse préalable à la loi morale selon la Bible, c'est-à-dire cette loi qui a force de loi parce que c'est la vérité morale absolue.
Oui, mais au fond, l'abandon de l'aliénation coûte très cher, risque de coûter très cher.
Bien.
Alors, tant qu'à faire, autant rester aliéné.
Non, il y a comment dire. Oui, mais nous savons d'autre part que cela n'est pas possible. Nous savons d'autre part que cela n'est pas possible. Enfin, là je reprends le niveau des. C'est que quelqu'un qui refuse la soumission à la loi est aliéné pour toute une partie de sa personne. C'est-à-dire, une partie de sa personne reconnaît lucidement, c'est le monde de la connaissance, que la loi est la loi, et le fait de n'être pas en accord avec cette loi connue comme telle est peut-être l'aliénation la plus grave. Donc nous savons que ce n'est pas possible. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a une assaise de purification, ou de libération, si vous voulez, qui est indispensable. Et ça, c'est le genre de vie. C'est les mœurs. Avant la confrontation avec la loi, et c'est ce qu'en langage de la société juive on appelle la piété. Il y a tout un apprentissage de ce niveau auquel on est vraiment confronté avec la loi et qui est le genre de vie indispensable pour que la loi puisse être incarnée, si j'ose employer ce terme. Nous allons voir exemple des principes extraordinaires. La veille du mariage, puisque nous parlons du mariage, toutes les fautes sont annulées. Si on change de promotion sociale, toutes les fautes sont annulées. C'est-à-dire, l'ensemble de tout remords possible ou éventuel est évacué radicalement. Et il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, sinon, la vie serait impossible. C'est prévu par la loi. C'est-à-dire, il y a trois cas où tout ce qui a été la préhistoire jusqu'à ce moment-là est vraiment annulé. C'est le repentir, c'est-à-dire je n'étais pas soumis à la loi, je me repens, j'accepte la loi. Le mariage, parce qu'on va entreprendre une autre identité humaine. Et puis d'autre part, la promotion sociale elle-même. Si par exemple, j'étais adjudant et que je deviens sous-lieutenant, eh bien il y a prescription pour tout ce qui s'est passé avant que je sois nommé lieutenant. Ceci étant indiqué par le Talmud à tous les niveaux de la vie sociale. C'est extraordinairement important. Voilà. Et puis, nous avons surtout cette évacuation journalière et annuelle, et mensuelle et annuelle, de la culpabilité par les rites de l'expiation. Et si effectivement cette assaise de la piété n'est pas prise au sérieux, l'accès à la moralité est impossible. Si je dois traîner le remords de la faute que j'ai faite hier, heureusement qu'entre-temps j'ai fait ma prière ce matin, par conséquent j'en suis délivré, alors la vie serait impossible. C'est la raison pour laquelle la piété est indispensable à la moralité. Par exemple, une règle. Non, Non, nous revenons à la question qui était posée tout à l'heure. Pas du tout. Si l'on est vraiment pieux, alors on ne fait pas de faute. C'est tout à fait autre chose. Si, parce qu'il faut savoir comment on doit se conduire. Comment on doit se conduire? Non, je m'explique. Celui qui est vraiment pieux n'est pas dans le cas de cette culpabilité traumatisante qui nous préoccupe dans ce problème. Je vais vous dire, celui qui est véritablement pieux, pour lui la faute ne peut être qu'un incident, et un incident c'est pas grave. Celui qui n'est pas pieux, hein, eh bien, pour lui c'est une catastrophe, à moins de renoncer à l'identité humaine. C'est une catastrophe parce qu'il y a une accumulation du phénomène remords qui empêche d'ailleurs le repentir lorsqu'il devient exagéré. Enfin, vous connaissez.
Il y a des remords quand il n'est pas pieux. Pourquoi? Et quand il n'accepte pas la morale, qui peut être culpabilisant.
Je n'ai pas bien entendu votre question, vous allez me la répéter, mais je voudrais vous dire quelque chose que je voulais ajouter tout à l'heure. Nous avons une règle dans le Talmud qui vous éclairera un peu ce problème de la culpabilité. Il est interdit de se repentir de quelque faute qu'on ait fait. Regretter, c'est autre chose. Pas savoir qu'on a passé par une expérience et qu'elle doit servir, ça c'est autre chose, regretter. Mais de se repentir, d'avoir à se repentir d'une faute qui a été faite avant le dernier jour de Kippour. Parce que ça signifierait que le jour de Kippour n'a pas été réellement réalisé. C'est-à-dire le soir du jour de Kippour, nous sommes tout neufs. Ou alors le jour de Kippour ne sert à rien. Or il sert à quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une soupape de l'évacuation de la culpabilité qui est à la disposition de la bonne volonté. Elle ne peut pas être à la disposition de la mauvaise volonté. C'est là que je réponds à votre question. Je vais vous dire, nous considérons, si vous voulez, nous considérons la loi morale comme étant, au niveau du phénomène humain, de la même nature que la loi physique au niveau du phénomène physique. Il y a une marche des choses, il y a un ordre des choses. Et nous savons très bien que Dieu n'a même pas à intervenir en tant que créateur pour punir ou récompenser. En gros, les choses marchent toutes seules, vous comprenez? Il y a, si vous voulez, une force de retour qui joue à retardement dans le cas de la morale, elle joue immédiatement dans le cas de la physique, si vous voulez, et qui est inévitable. C'est un ordre des choses. Par conséquent, il faut nous prémunir contre l'ordre des choses lui-même. Et aucune conscience humaine authentique n'échappe à ce problème. Par conséquent, si vous voulez, le ou bien, c'est ou bien je me soumets à la loi, alors la faute, c'est pas grave. Ou bien je ne suis pas soumis à la loi, alors la faute c'est grave. Parce que c'était un cas réel. Je vous donne un exemple. À un certain moment, parce que c'était vraiment le cas où la loi devait jouer. Mais on fait le procès pour savoir si la loi doit jouer. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un vient dire, il s'est passé une séance de fornication où? Sous ce figuier. Alors on lui demande de quelle couleur était le racine. S'il ne peut pas dire, on ne fait pas de procès. Vous voyez jusqu'où va la minutie de la... Parce que vraiment, on veut savoir si c'est le cas où la loi joue. Ben, sinon, c'est la sanction sociale. C'est-à-dire, ben, vous savez, ces deux-là, ils ne se conduisent pas bien. Ben, pas plus. Mais ça suffit déjà pour qu'on ait préscience qu'une société ne peut vivre que sur un certain ordre. Ce que les Grecs nommaient la politesse dans le sens étymologique. Ben. Mais ça, c'est pas la loi. Ça, c'est pas, comment dire, la loi religieuse qui intervient là, ce qu'on appelle le nimus, c'est-à-dire le style des mœurs. Et très souvent, le tribunal, nous en avons mille exemples, décide, c'est pas le cas où la loi doit intervenir. Mais on sait que la chose s'est passée. Oui, mais c'est pas le cas où la loi doit intervenir. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée dans ma propre vie. Quand j'étais jeune éducateur, il y a longtemps malheureusement, enfin pas si longtemps que ça quand même, j'ai eu à m'occuper d'un cas qui s'est produit dans la famille d'un de mes élèves, et un cas où, effectivement, il fallait décider de séparer le mari et la femme. Bon, c'était un cas, d'après la loi, épouvantable. Bon. Alors, j'ai étudié la question avec toutes les connaissances que je pouvais avoir, et j'étais de plus en plus convaincu que c'était ça qu'il fallait faire, puisqu'on demandait le jugement, il fallait dire qu'est-ce que le jugement décide. Et puis, pris de scrupule, je suis allé voir un premier rabbin que je connaissais. Il m'a répondu, tu sais, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. Ben, il faut être coulant, il faut être tolérant. Enfin, il a répondu avec son tempérament. Devinez pas qui c'est. Je suis allé voir, je me dis, c'est un peu inquiétant. Pourtant, il connaît la loi, comment elle est. Et je suis allé voir un deuxième rabbin. il m'a dit, écoutez, effectivement, la loi est comme ça, mais en fait, vous n'avez pas autorité légale pour intervenir. Vous n'êtes pas de la hiérarchie, ne vous occupez pas de ça. Deuxième sorte de réponse. Finalement, vous voyez, dans la décision à prendre, ça revenait au même. C'est vraiment un troisième rabais. Puisqu'en général, pour se faire une opinion, il faut réunir un tribunal rabbinique, il faut qu'il y en ait au moins trois pour qu'on puisse trancher. Pour qu'il y ait une majorité. Alors il a commencé par m'écouter patiemment. Et puis, il m'a dit, écoute, on va étudier le cas ensemble. Et au fur et à mesure, ça a duré des heures. J'ai d'ailleurs reçu une leçon magnifique de Talmud. Et au fur et à mesure que j'étudiais le cas avec lui, j'étais de plus en plus attristé, parce que j'étais de plus en plus convaincu qu'il fallait intervenir. Et on a fini l'étude, il fallait intervenir. Après, il me regarde et me dit, et qui tu es toi pour intervenir? Comme ça est la loi, et c'est pas comme ça qu'on fait. Vous voyez à peu près le problème. Mais au moins, j'ai été rassuré. La loi est vraiment comme ça. Seulement, on n'est pas dans ce cas-là. Alors, vous voyez, on fait autrement. Parce qu'on considère que le niveau existentiel, si vous voulez, de la situation réglée, n'est pas au niveau où la loi avait légiféré. Un autre exemple. À un certain moment, il y a 2000 ans, les Talmudistes ont décidé de supprimer la peine de mort. Pourquoi? Et on croit aujourd'hui que c'était un progrès dans la moralité. Eux, ils ont fait 3 jours de jeûne, mais ils ont dit, il n'y a plus de morale, alors on ne peut plus punir. Il y a trop de crimes, on ne peut plus appliquer la peine de mort. Quand il arrive une fois en 70 ans qu'il y a un assassinat, il faut appliquer la loi, parce que la valeur est en jeu. Mais si ça arrive 3 fois, 4 fois, c'est trop, on ne peut plus. Ça veut dire que les hommes ne sont plus au niveau de moralité où la loi doit s'appliquer. On prend acte que la moralité s'est affaissée, et pas le contraire. Si on a supprimé la peine de mort, ce n'est pas un progrès dans la conscience morale. C'est tout simplement qu'on prend acte qu'il y a un fléchissement de la moralité.
On ne veut pas décimer les populations.
Comment ?
C'est déjà plus
on ne veut pas décimer les populations.
C'est à peu près le même.
Alors ?
Bon, par conséquent, c'est pourquoi je vous disais, bien entendu, lorsque je vous traite, si vous voulez, de cette question, il s'agit du niveau de l'homme et de la femme authentique. Alors voici comment les situations d'après la loi et comment est le résultat ou la sanction. L'idéal, c'est effectivement qu'une manière d'être homme masculin, une manière d'être homme féminin, se soit rencontrée et choisie, et à ce moment-là, il s'agit d'une relation d'exclusivité. En dehors de cela, c'est pas mariage, d'après la loi. Mais si c'est mariage, alors voici de quoi il s'agit. Et c'est là qu'on embraye.
Par quel procédé est-on passé de la loi idéale, de la loi telle qu'elle s'applique à l'homme de l'intérêt, à la loi concernant les hommes de l'intérêt?
Bien, c'est précisément l'objectif de la jurisprudence. Et alors, il y a tout un ensemble de règles, psychologiques d'ailleurs, de nature psychologique, qui ont été mis en évidence par cette jurisprudence et desquelles se servent les tribunaux rabbiniques. Par exemple, on ne considère pas qu'on doive tenir compte d'une accusation que quelqu'un fait contre lui-même. En aucun cas. Parce que, selon le fonctionnement de l'identité humaine, on sait très bien que les tendances ne mènent pas un homme à se condamner lui-même. Je vous donne ça, enfin, de mémoire, un certain nombre de règles de ce genre. Et là, finalement, la règle générale qui les implique tous, c'est la connaissance de la loi. La connaissance du point de vue de la compréhension. C'est-à-dire, on ne juge que des haverim. Haver, ça veut dire celui qui est effectivement... Dans le cas de l'homme à qui Moïse a parlé en disant « Tu es Israël, voici la charte de l'identité d'Israël ». Les autres étaient jugés d'après ce qu'on appelle les règles de la politesse, c'est-à-dire les usages de la société. Et un certain nombre de dispositions ont été prises de telle sorte que, le long des générations, une certaine assaise du niveau de la piété au niveau des mœurs mène finalement... l'homme à ce niveau. Je crois que c'est devenu un problème extrêmement urgent. D'ailleurs, beaucoup de textes, déjà du siècle dernier, l'indiquent, parce que, finalement, du point de vue de la lucidité, la civilisation a beaucoup progressé. C'est-à-dire que l'homme, à l'échelle de l'individu ou de la personne, est devenu beaucoup plus évolué au niveau de la lucidité, de la connaissance morale, de ce qu'il n'était dans l'Antiquité. seulement les mœurs n'ont pas suivi. C'est là le décalage sur lequel il y aurait à réfléchir. Ça vous éclaire en tout cas sur le fait, je vous l'avais signalé je crois au premier cours, qu'au moment de l'indépendance de l'État d'Israël, les rabbins ont refusé de déclarer la Torah constitution du pays. Et ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de leur tâche, c'est tout simplement qu'ils ont jugé que l'état de la société n'était pas encore tel que ce soit la Torah qui puisse être la constitution de ce pays. Alors ils ont réclamé, si vous voulez, le secteur proprement culturel, proprement religieux, et puis ils ont donné au Parlement le secteur, comment dire, civil, pénal. Mais tout ce qui concerne la signification religieuse du comportement reste de la prérogative des tribunaux rabbiniques, alors que tout ce qui concerne, au contraire, la vie purement sociale et de la compétence des tribunaux civils. Je crois que c'est un phénomène de cet ordre.
Qu'est-ce qu'il y a pour le commun des mortels ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'il reste pour le commun des mortels ?
Il reste ce que les sociologues appellent la loi sociale. À l'intérieur d'une société comme la nôtre, idéalement, cette loi sociale elle-même est prise dans toute une série de takanot, c'est-à-dire de consignes d'assaises éducatives.
Plus exactement, la question que vous formulez encore de cette façon-là, est-ce que la loi sociale juive est différente de la loi sociale commune ?
Du point de vue de la Torah, oui.
Même la loi sociale ?
Ah oui, très différente.
Dire la loi s'appliquant aux hommes
oui.